aller plus vite. Vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre.
Ça fait deux fois que vous me faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Guidon réglable en hauteur.
Les lettres affranchies à 2 centimes seront acheminées à Vélocipède.
Le nez dans le guidon sur Radio B.
Quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au départ de la 34e étape du nez dans le guidon, votre rubrique consacrée au cyclisme. Chronique un peu spéciale aujourd'hui. Pas d'invité dans notre studio. Nous rediffusons notre récente rencontre avec Hugo Malfroy, auteur d'un impressionnant périple cycliste l'été dernier. Il est parti de Strasbourg pour rejoindre les Pyrénées en traversant les 4 grands massifs français. Réécoutons-le avec plaisir et on se retrouve juste après.
Radio B.
Bonjour Hugo.
Bonjour Alain.
Tout d'abord, en quelques mots, qui es-tu ?
Je m'appelle Hugo Malfroy. Je viens d'avoir 22 ans et je suis originaire de l'Ain. J'habite à Arban. Je suis nutritionniste du sport et actuellement, je me lance dans les études pour devenir entraîneur dans le cyclisme. Et je pratique le cyclisme en compétition, donc le VTT plus particulièrement. Et cette année, je me lance dans l'ultra-endurance et j'ai pu en découvrir déjà les... Ouais, j'ai pu découvrir l'ultra-endurance cette année, quoi.
Voilà, ouais, parce que ça, c'est un sacré défi que tu as réalisé, là. Quelle idée de se lancer dans une telle aventure ?
Ouais, c'est un sacré défi, hein. Et c'est vrai que ça faisait des années que j'aimais, en fait, tout simplement les sorties longues, et c'est venu naturellement, quoi. Je faisais de la compétition sur des efforts de 1 heure à 1 heure et demie, vraiment à bloc. Et quand j'ai découvert ces sorties longues, je me suis intéressé aux gars qui font de l'ultra-endurance actuellement. Je regardais des documentaires et c'est vrai que l'idée de me lancer dans mon propre défi, de le mettre en place, ça m'intéressait de plus en plus. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. À moi de jouer maintenant, je l'annonce. Et en fait, le plus dur, c'est de l'annoncer. Une fois qu'il est annoncé, il faut le mettre en place.
Ouais, parce que ça fait un sacré parcours, hein. Ça fait pas loin de 2000 bornes.
En fait, initialement, c'était 2100 km pour 35 000 mètres de dénivelé. Donc en passant par les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Donc j'ai fait... et le but, c'était de le faire en 7 jours, pardon. Mmh. Donc c'est ce qui faisait une moyenne à peu près de 300 km par jour. Et je me suis arrêté à 1630 km pour être précis, et un peu plus de 25 000 mètres de dénivelé. Donc ça, j'y ai fait en 6 jours. J'ai été stoppé par une douleur au genou et la mauvaise météo des Pyrénées. Donc trop rageuse et ça me faisait prendre trop de risques. J'ai un peu perdu pied le dernier jour.
Ouais, c'est ça le problème des Pyrénées, ouais, c'est terrible quand même. Ouais.
Ouais, ouais.
Et sinon, donc, tu pars de Strasbourg, le premier obstacle c'est les Vosges.
Ouais, le premier obstacle c'est les Vosges, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que t'en as retenu ? Facile quoi, c'était le début.
C'est un peu paradoxal, mais moi ce qui a été vraiment dur à gérer, c'était les deux premiers jours. Surtout le premier, parce qu'en fait, au bout de 3 heures, quoi, je suis parti et j'avais les jambes vraiment lourdes, vraiment, j'étais vraiment crispé en fait. Je pensais juste à une chose, c'était finir en 7 jours, quoi. Au bout de 3 heures, j'étais déjà là à regarder le chrono en me disant « Oh là là, ça va pas le faire, je suis déjà à la bourre » alors que j'avais roulé depuis 3 heures. Et après, ça s'est décanté, je me suis dit « roule pour toi en fait, fais-toi plaisir ».
Après les Vosges, donc c'est le Jura.
C'est ça.
Donc c'est tout près de chez toi. L'idée ne t'a pas effleuré de rentrer à la maison ?
C'est vrai que c'était dur parce que je voyais les panneaux qui indiquaient la route pour rentrer chez moi, quoi. Et j'ai pu compter sur des amis en fait qui m'ont vraiment épaulé à ce moment-là. Donc c'est vrai que le temps est passé un peu plus vite. Mais quand on voit la famille, j'ai eu des proches qui m'ont rejoint sur le parcours. On a fait 150 km ensemble. C'est vrai que on se sent un peu à la maison. Du coup, on voit nos proches, c'est motivant. Parce qu'au final, les Jura, c'est arrivé le deuxième jour. Les Alpes, c'est déjà arrivé le deuxième jour au final. Et en fait, on commence seulement. Hein. Il reste, dans le Jura, je devais avoir fait 500 km. Et c'est... Voilà, ouais. 500 km, c'est énorme, mais c'était que le début, en fait.
Et puis les Alpes, après. Donc, les Alpes aussi, il y a des paysages variés, de belles images, hein, j'imagine.
Ouais, c'était magnifique, en fait. On enchaîne l'école, hein. Il n'y a pas de place. Et on monte, on descend, on monte, on descend. Et ça, pendant 2 jours, quoi. J'ai pu voir, le col de l'Isran, le col de la Bonnette, l'Isoard. C'était vraiment magnifique. On a des paysages, c'est sublime, hein. Parce qu'on est en altitude, en plus, on se sent un peu... sur le toit du monde, quoi. Là, c'était le toit de l'Europe, en revanche. Mais le col le plus haut d'Europe, quoi.
Ah ouais, j'allais dire, oui, parce que c'est grave, le col de l'Iseran, hein, c'est le sommet de l'Europe, il effraie les coureurs du Tour de France, donc toi, tu t'y es frotté sans souci. Alors, je crois qu'il culmine à quasiment 2800 mètres.
Ouais, c'est ça, ouais. 2770 mètres, pour être précis, et bah, j'appréhendais les Alpes, hein, parce que de nature, je ne suis pas grimpeur, mais j'ai vraiment profité, puis en fait... Les Vosges et le Jura, j'ai pas croisé grand monde, il n'y avait pas énormément de cyclistes. Et là, d'arriver dans ces cols, bah, on croise des gens qui, eux aussi, viennent de loin, quoi. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes et ça fait plaisir, quoi. On se sent moins seul, parce que ouais, c'est une aventure, on se sent seul, hein, au final. Hein. C'est de longues heures sur un vélo.
Et les Alpes, ça fait combien de cols? Non, tu les as pas comptés.
Alors, sur la totalité du parcours, j'en ai fait plus de 60, mais 60 ouais. Avec des très longs cols, hein. Ben, dont tous ceux des Alpes, mais ouais, dans les ouais. Alpes, je dirais, j'en ai fait 10-15.
Puis après, ouais. Donc, j'ose pas dire un peu de répit, mais tu as longé la côte méditerranéenne, alors, pour rejoindre les Pyrénées.
Ouais, voilà, c'est ça, en fait, j'ai fini les Alpes, bah, c'était au col de la Bonnette, donc après, je suis allé en direction de Nice, et après, là, c'était une longue traversée pour rejoindre les Pyrénées, donc beaucoup de circulation, j'ai eu quoi, 500 bornes de transition. Quand je dis transition, c'est pas... Au final, c'était pas vraiment du répit parce que j'ai fait que pédaler. C'était une longue partie où j'étais très stressé avec la circulation. Et c'est vrai que fallait garder son sang-froid en fait. Hein. Et j'étais épuisé à chaque fin de journée par contre.
C'est stressant quand même. Hein. C'est vrai qu'en plus, les automobilistes sont de moins en moins corrects.
Ouais, voilà, c'est ça. Parfois, je me croyais vraiment sur l'autoroute. Quoi.
C'est presque plus difficile que de grimper le col. Quoi.
Ouais, moi, j'ai trouvé plus difficile. Mentalement, c'était... C'est pas le même paysage en fait, hein. C'est un peu plus monotone et c'est plus dangereux, ouais, tout simplement.
Puis ensuite, donc les Pyrénées, mais... les Pyrénées, selon la légende, c'est terrible.
Ouais, j'en avais une grande appréhension moi déjà. Quand je regarde les courses à la télé et qu'on voit les Pyrénées, j'ai une image des Pyrénées en fait qui me fait un peu peur, quoi. Et arriver là-bas, ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Hein.
Les ours aussi, non?
Ah, j'ai croisé les cochons qui traversent la route, mais.
Non, pas les ours. Hein.
Pas les ours, non.
Non, ils étaient dans la légende, les ours. et tout ça, donc... oui, il faut une sacrée endurance hein, pour tenir le coup, là. Donc,
voilà.
T'as pas trop souffert, à part une blessure au genou, quoi.
Étonnamment, j'étais vraiment surpris de ma forme, parce qu'en fait, faut savoir que c'est aussi une longue prépa. Hein. La souffrance, elle commence 2 ans avant. Hein. On se prépare. C'est des longs moments de fatigue aussi, à l'entraînement. Et là, j'étais surpris, parce qu'avec tout ce que j'ai traversé pour arriver à ce défi, j'avais un peu perdu confiance en moi et de voir que jour après jour, j'étais de mieux en mieux. J'étais très très bien physiquement. Hormis une inflammation derrière le genou dans le col de l'Isoire que j'ai fait de nuit. Là, j'ai vraiment pris peur parce que c'était terrible. Hein, je pédalais sur une jambe et j'avais pas le choix. Je me suis dit, avec la chaleur qui va arriver au lever du jour, ça va passer et... Arrivé dans les Pyrénées, j'ai un peu lâché prise. Ouais, tout est revenu.
Ah ouais, puis le mauvais temps, ça aide pas. Ouais. Puis donc, il a fallu une bonne préparation, de l'entraînement, comme tu le disais. Mais tu as un coach, c'est pas n'importe qui, Florian, donc ça devait être dur, non?
Ouais. C'est Florian Schaeffer, mon entraîneur, c'est ça. Et ouais, on s'était lancé le pari. Enfin, je lui en avais parlé. Et c'est vrai qu'il avait pas mal apprécié ce défi. Surtout qu'en fait, je ne me suis pas facilité la tâche parce qu'avant ce défi, 3 semaines avant, je me suis lancé dans une course VTT, donc un ultra-marathon, ce qui est considéré comme la course la plus dure du monde. Donc l'enchaînement de cette course, la MB Race, avec le défi, c'est vrai que c'était un pari très risqué. Il m'en a bien fait baver à l'entraînement, Florian.
Et puis dans la préparation, il y a aussi un autre domaine où il faut anticiper. Il faut prévoir par exemple d'éventuels problèmes mécaniques, des crevaisons.
C'est ça. Donc moi, j'avais la chance, en fait, je n'étais pas en autonomie totale. Il y a mon père qui m'a suivi en voiture, plus ou moins. Hein. Il n'était pas non plus derrière moi, mais on se rejoignait à des points stratégiques et j'avais de quoi, j'avais des roues, j'avais de quoi réparer. Quoi.
Voilà. Et l'hébergement, comment ça se passe? On dort bien? On récupère bien?
C'était très très intense. Là, j'ai vécu vraiment 6 jours, c'était à fond dès le début. Même quand je descendais de mon vélo, c'était à fond. J'ai dormi dans un camion en fait, 3 heures par nuit à peu près. En fait, je partais la nuit, hein, rouler jusqu'à 21h le soir, c'est ça. Et après, on mange, on se douche très rapidement parce que j'avais voulu en fait conserver ce confort de me doucher. On avait pris une douche portative.
D'accord.
Je repartais un peu frais, quoi, mais c'est vrai que c'était vraiment rapide.
Et puis ce défi, cette expérience, ça avait aussi un autre sens. Tu as roulé pour une association caritative.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'association Rêve. Donc ça, c'est une association pour des enfants gravement malades, atteints de différentes maladies qui sont aujourd'hui, qui eux veulent aussi réaliser leurs rêves. Et donc il y avait une cagnotte qui avait été mise en place. Donc j'ai eu pas mal d'aide de la part des sponsors et un pourcentage de la cagnotte a été reversé à cette association. Et ça, c'est vrai que ça me tenait à cœur de par mon histoire, en fait. J'ai une histoire particulière avec, avec ça. J'ai perdu des proches de cancer. Donc, c'est vrai que, en final, quand on voit la difficulté du parcours, ça aide toujours. Hein. Moi, j'ai pensé à ça tout le long.
Oui, c'est
et
ça.
C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas ressenti... forcément, c'est dur. Hein. Quand je dis que je n'ai pas eu de douleur, c'est relatif. Mais ça m'a vraiment aidé, ça m'a poussé. Moi, je me dis qu'il y en a qui n'ont pas la chance de faire ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait pour eux.
Ouais, ouais, c'est un sacré périple, hein, donc ça, prêt à refaire éventuellement, enfin
ouais,
pas
ouais,
tout de suite. Mais...
alors après le défi, c'est vrai qu'on aime encore plus ce sport. Hein. Moi, quand on voit les paysages que j'ai traversés, on aime encore plus ce sport, mais on a besoin aussi de souffler. Il y a un moment où on se dit, il y en a eu assez, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un projet qui en appelle d'autres pour 2023 déjà.
Donc on se retrouvera, ouais. Donc voilà, il est déjà temps de nous séparer. Avant, Hugo... Quelques mots à rajouter, j'ai peut-être oublié quelque chose, tu pourrais nous dire quelque chose d'intéressant peut-être.
Ouais, moi je voudrais tout d'abord c'est remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet, j'ai eu pas mal de sponsors et tous ceux qui ont cru en moi tout simplement, donc mes proches, ma famille, mes amis, c'est vraiment ce que je retiens de ce projet aussi, c'est l'engouement qu'il y a eu autour de ce défi, j'ai vraiment senti les gens derrière moi et je ne m'y attendais pas, je recevais énormément de messages et donc voilà, ça m'a fait du bien de faire ce projet aussi, c'était vraiment beau.
Merci Hugo Malfroy.
Merci
nous
Alain.
Nous sommes très très heureux de t'avoir accueilli dans nos studios. Je suis convaincu que le brillant sportif que tu es, un spécialiste du VTT marathon et de l'ultra-endurance, a mis du soleil sur nos ondes et sans doute donné des idées à nos auditeurs. N'est-ce pas Jimmy, notre technicien derrière la vitre? Bonne continuation Hugo.
Merci Alain.
Radio B.
L'actualité, c'est aussi de bien belles performances qui méritent de faire les gros titres. Par exemple, Antonin Leguet, tout juste 15 ans, coureur cadet du Vélo-Club d'Ambérieu, vient de se classer 7e de la première manche de la Coupe de France de cyclocross il y a tout juste 2 semaines. Son équipier, Enzo Gosset, 19 ans dans quelques jours, s'est jumelé de brillantes études avec des résultats sportifs prometteurs. Il a été sacré champion de France universitaire en juin dernier. Comment ne pas saluer non plus Thibaut Dupont, qui va très prochainement disputer le championnat du monde de pomme trek, bien loin de ses terres de Béno, puisqu'il courra à Santiago du Chili. Le pomme trek, hein, en quelques mots, c'est un sport dérivé du BMX. Hein, ça se passe sur une piste faite de bosses et de virages relevés. Il se pratique avec un vélo de BMX ou de VTT. Pour les amateurs, on peut aussi s'amuser en roller ou en skate. Avec son BMX, Thibaut Dupont, il faut le rappeler, remportait l'an dernier la médaille de bronze du championnat du monde disputé à Lisbonne. Nous l'encourageons très fort, convaincu qu'il brillera de nouveau cette année. Un autre jeune mérite également d'être mis en lumière, le sociétaire du club d'Hauteville Albarine Valromey, Kimi Viardot, spécialiste de VTT descente, 12e de la Coupe du Monde, il s'est emparé cette saison du titre de champion d'Europe junior. Voilà de belles locomotives pour la jeunesse cycliste indinoise.
Radio B. Radio B.
Agenda, un calendrier intéressant nous est proposé ces prochaines semaines. Tout d'abord, dimanche 6 novembre, cyclocross du plan d'eau de Cessy, de 10h à 16h. Vendredi 11 novembre, Servas, le village de Daniel Perret, vivra au rythme du trophée territorial de cyclocross que se disputeront les coureurs de l'Ain, des Deux-Savoies, de l'Isère et de la Drôme. Les épreuves du trophée sont aussi ouvertes aux sportifs des autres départements. Premier départ à 10h pour les enfants des écoles de cyclisme et conclusion avec les élites et les espoirs qui, eux, s'élanceront à 15h. Le lendemain, samedi 12, l'amicale cycle varennois et l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse vous accueilleront à Varennes-Saint-Sauveur. Cyclocross ouvert à toutes les catégories d'âge à partir de midi. Le dimanche 20, de nouveau à la limite de l'Ain, se déroulera le premier cyclocross danse au plan d'eau du Colombier, situé route de Saint-Bernard. Départ à partir de 11h30. Samedi 3 décembre, encore une belle épreuve de cyclocross à l'affiche. Le souvenir Thierry Charbonnier à Saint-Vulbas. à partir de 10h30 et aussi tout au long de la journée. N'oublions pas les championnats Auvergne-Rhône-Alpes, de cyclocross bien sûr, qui seront organisés à Belmont-de-la-Loire du côté de Cours-la-Ville les 10 et 11 décembre. Ainsi s'achève votre rendez-vous mensuel. Ah non, pas tout à fait. Avant de nous séparer, je n'oublierai pas, en ce vendredi 4 novembre, de souhaiter un joyeux anniversaire à Yann Richard, le dynamique conseiller technique départemental du comité de l'Anne-Cyclisme et responsable du pôle espoir Talent 01. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi 2 décembre, non pas pour fêter la victoire d'Austerlitz, mais pour accueillir un historien du cyclisme. Belle et agréable journée à l'écoute de Radio B. Les bonnes ondes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.